Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Il y a tellement d'écritures différentes et tellement d'aspirations différentes dans le domaine de l'illustration qu'on a un champ, plein de champs possibles pour créer des connexions avec les gens en fait.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @jérémykleiss. Cette semaine, je suis heureux de vous présenter ma discussion avec Marie-Laure Cruchy, que vous connaissez probablement sous le pseudonyme Cruchiforme. Initialement formée à l'École Estienne puis aux Arts Décoratifs de Paris, elle a d'abord travaillé en agence en tant que directrice artistique avant de créer son propre studio de création en 2007. Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'illustration, obligez, son travail, vous l'avez déjà vu. Présente un peu partout, Marie-Laure collabore étroitement avec de nombreux clients dans les domaines de la presse, l'édition jeunesse, la musique, ainsi que certaines grandes marques de luxe. Et si vous êtes amateur de beaux livres, il est fort probable que vous ayez vu passer son livre Cabins, édité chez Tachène, ou encore Colorama, primé en 2017 au Festival du Livre Jeunesse de Montreuil. Est paru aux éditions Gallimard. Dans cet épisode, Marie-Laure nous partage son expérience du confinement, de son rapport à la nature, aux couleurs et de sa pratique de l'illustration. Mais surtout, elle nous parle du festival Nîmes Illustre qui aura lieu... qui n'a pas eu lieu à cause du confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Et oui, initialement, à l'heure où cet épisode sort, nous étions tous censés nous retrouver à Nîmes pour fêter au soleil cette pratique de l'illustration que nous apprécions tous. Nous avions même prévu un enregistrement live en public de podcast, mais je ne vais pas vous la faire à l'envers, l'histoire avec un grand H en a décidé autrement. Nous revenons donc avec Marie-Laure sur l'histoire et les ambitions de ce festival et sur son désir de transmettre et de fédérer la communauté artistique. Un thème qui m'est également cher. Mais trêve de bavardage, elle vous racontera tout ça bien mieux que moi. Sans plus tarder, voici ma discussion avec Marie-Laure Cruchy. Bonne écoute.
Rock and roll.
Rock and roll.
Super, Marie-Laure. Bienvenue sur Sens Créatif.
Merci.
Je suis trop content de discuter avec toi aujourd'hui.
Ouais, je suis ravie d'être là aussi.
Bon, bah, tu sais que la plupart de mes auditeurs te connaissent probablement, mais ils ne savent pas ce qui te motive à sortir du lit le matin.
Ah ben moi, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est la fenêtre. Je crois que j'ai le grand privilège d'avoir une petite fenêtre, ou en tout cas durant le confinement, si je peux parler de cette expérience-là. J'avais une fenêtre qui donnait directement sur une vallée et on se faisait un petit plaisir de ne surtout pas fermer les volets le soir pour pouvoir pouvoir contempler le soleil qui venait balayer comme ça progressivement les sommets de cette vallée.
C'était dans le sud, hein, ça ?
C'était dans le sud, ouais, dans les Cévennes. Et c'est la chose la plus précieuse. C'est le meilleur moment de la journée, en fait. C'est le réveil.
Ouais.
C'est ce temps-là, vraiment, pouvoir regarder ça en ouvrant les yeux, là, lentement. C'est
magnifique.
Ouais, c'est un pur bonheur, vraiment. Donc, ce qui me motive à me lever... C'est ce petit rayon de soleil. Et puis après, la journée commence bien, quoi. Avec ça, je sais qu'à Paris, c'est beaucoup plus difficile quand les journées de ciel gris se suivent, se ressemblent. Je le sens. Moi, je fonctionne vraiment, je crois, je suis un peu comme une plante. Hein. Je fonctionne vraiment à la lumière du soleil. Donc, ouais.
Du coup, le sud vous a fait du bien. Puis tu viens de Nîmes aussi, donc
oui.
C'est vrai.
Oui, c'est mes racines. Ça fait bientôt 20 ans, en fait, que je suis à Paris. Mais malgré tout, il y a un appel. Il y a un besoin de retrouver ça. La lumière n'est pas la même ici, en fait. Même quand il fait beau, comme en ce moment, le bleu n'est pas le même. Bon, ouais. Je m'y connais quand même en couleurs.
Ben ouais. Les couleurs, c'est un peu ton...
Ouais, ça a été un moteur, ouais, aussi, pour comprendre le monde, pour se l'approprier, pour cette question de nuance. Pour moi, j'ai compris après coup, et c'était pas vraiment quand j'initiais le projet, mais j'ai compris après coup que travailler sur les nuances de couleurs, c'était aussi travailler sur une capacité ou encourager le lecteur à développer une capacité de nuancer son langage. Il y a un parallèle qu'on peut faire, c'est-à-dire avec plus tu as de vocabulaire et plus tu arrives à mettre les mots ou des mots précis sur, des objets qui se ressemblent mais qui ne sont pas exactement les mêmes, plus tu es capable de nuancer ton langage et ton regard sur le monde, ta capacité de t'approprier le monde. Donc, c'était intéressant, après coup, de prendre conscience de ça.
Pour Colorama, c'est ça ?
Oui, pour ouais. Le livre Colorama, ouais, c'est ça.
Je trouve ça super intéressant ce que tu me dis, parce que moi, j'ai toujours considéré que j'étais un peu une bille en couleur.
Ouais.
Je misère, mais depuis toujours, sur les couleurs. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est à la recherche de la nuance.
Mm-hmm.
Et j'ai déjà vu ton livre, évidemment.
Oui.
Mais je ne l'ai pas acheté. Et là, je me dis, faudrait que je me le chope, celui-là.
Bah, c'est un livre qui partage du savoir avant tout. Hein. Je pense que, en tout cas, il peut se prendre pour l'aspect purement esthétique et graphique. Certains le prennent presque comme un objet de décoration. Donc, j'aime beaucoup ce côté-là, ce double niveau possible de lecture. Donc, tu peux te laisser juste porter par le plaisir des couleurs qui sont répertoriées ou par le plaisir des illustrations, parfois par le nom de ces nuances qui peuvent être plus ou moins poétiques. Mais le gros du travail dans ce projet-là, ça a été vraiment le travail de recherche et d'écriture autour de l'origine de chaque couleur. Donc vraiment, qu'est-ce qui définit cette appellation-là ou qu'est-ce qui fait que telle couleur est perceptible de cette façon-là ? Enfin, c'est parfois scientifique, parfois linguistique, c'est parfois dans notre culture, c'est parfois des réponses physiques, chimiques. Enfin, ça balaye très largement en fait, les savoirs, les sciences, l'art, et ça essaye de le transcrire de manière très synthétique, très limpide, pour que ça reste accessible aux enfants, en plus des adultes. Donc, c'est un livre où on peut, je pense, j'espère, s'émerveiller ou s'émerveiller à nouveau du monde en découvrant l'origine de telle ou telle couleur. Donc, est-ce que ça va t'apprendre à nuancer ton langage ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va t'apprendre à avoir une plus grande sensibilité sur les couleurs ?
Ouais.
Je ne sais pas parce que... Peut-être.
Écoute, je vais me le procurer et puis je te dirai.
Ouais, tu me diras, je veux bien savoir.
Ouais, carrément, ça m'intéresse. Ouais. Du coup, en parlant de couleurs et on parlait de confinement juste avant,
oui.
De quelle couleur était ton confinement ?
Ah, ça c'est une bonne question. Alors, vert.
Ah, oui, c'est vrai.
Puisque j'étais baignée de nature, alors voilà, j'espère que j'ai toujours, je suis restée très discrète à ce niveau-là durant le confinement parce que j'estimais que ça pouvait être une forme d'indécence que de montrer aux autres rester en appartement puisqu'on en faisait partie hein, en appartement dans des appartements très petits. Je me disais que quand même, c'était un énorme privilège et qu'il n'y avait pas à se pavaner de ça. Il fallait rester, voilà, pas attiser l'envie ou la jalousie. Aujourd'hui, et j'assume grandement parce que c'était extrêmement précieux, en fait, d'avoir cette chance-là. Je l'ai vraiment saisie. Et donc, vert parce qu'on était baigné de nature, donc dans les Cévennes. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, c'est la maison de mon enfance, quoi. C'est vraiment... un lieu que je connais par cœur.
D'accord.
Et d'autant plus vert qu'on a vraiment investi le jardin. Donc, on a cultivé, vraiment, on a semé.
C'est vrai ?
Oui, oui. Ben, après, ça, c'est quelque chose que je fais chaque année, mais à petite échelle, parce qu'on retourne tous les étés, en fait, dans cette maison-là. Donc, on le fait, mais sur des périodes très courtes. Il faut que ce soit déjà amorcé pour pouvoir récolter quelques légumes. Là, c'était vraiment, on a tout repris au début, hein, voilà, on est arrivé, le terrain était en friche et il a fallu labourer, semer, en tout genre. On est même parti avec nos graines qu'on avait à Paris.
Ouais.
On a essayé, oh non, là, il faut le saisir, on va semer un max. Et c'était un pur plaisir d'avoir ce temps-là pour observer, attendre et regarder la croissance des plantes. Donc, je crois que c'était un énorme privilège d'avoir ce temps-là, justement. Donc, vert.
Vert. quelle nuance tu rajouterais à ce vert?
Ouais, alors la nuance.
On est en plein dans le thème.
Ouais, c'est bien. Je ne saurais pas dire. Je ne sais pas. Parce que, ouais, il y avait beaucoup de nuances.
Je pense notamment, tu sais, aux quelques emails qu'on s'est partagés.
Ouais.
Tu me parlais du confinement, et comme pour beaucoup de gens, contexte dans la nature ou pas, c'était une période spéciale pour tout le monde.
Oui.
Du coup, je me demande comment toi, tu l'as vécu, cette période-là.
Je l'ai vécu avec beaucoup d'angoisse, je crois, qui sont bien remontées très violemment. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. Je me raccrochais, je pense, vraiment au petit bonheur en tout genre, très simple, de regarder, d'écouter les oiseaux, de regarder les abeilles, les bourdons, une taupe, un mulot.
Ah ouais.
Je peux t'en citer plein. Le petit rituel de la taupe là, qui fait son chemin au milieu de nos salades, c'était insupportable. mais c'était magique, en fait, de se reconnecter à la nature, vraiment. Donc, je me raccrochais à ça, parce qu'en contrepartie, sinon le cerveau, il n'arrêtait pas. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être sur Internet pour essayer de comprendre quelle tournure prenait le monde, d'essayer d'y voir clair. Et c'était extrêmement pressant. Enfin, je pense que comme tout le monde, à un moment donné, il a fallu arrêter. Il a fallu vraiment lâcher prise pour pouvoir vivre un peu plus sereinement, en fait, et accepter ce qui s'imposait à nous. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, ça a été une épreuve plus intérieure pour moi que, évidemment, que dans la réalité de vie, puisqu'on était privilégié dans un cadre très agréable pour ça. On était en extérieur, on a vécu beaucoup en extérieur. Ouais. On avait des contreparties bien, tout à fait normales de vie très simple et même plutôt spartiate, parce que c'était une maison très ancienne, très petite, qui n'a pas du tout de confort matériel. Donc ça a été même une petite épreuve au démarrage, parce qu'il faisait encore assez froid dans la maison, donc pendant plusieurs semaines quand même, avant que les températures montent plus considérablement dans la maison. Il y avait la question de se chauffer, en fait. C'était vraiment, au début, c'était le cœur de notre activité. Trouver le moyen de se chauffer. Donc, on allait chercher à l'ancienne, on allait chercher le bois dans la forêt. Dans la forêt, un peu sur le terrain aussi. Et puis, on faisait le feu de cheminée, puisqu'on n'a pas de chauffage électrique.
Ouais.
Mais c'est bien, ça te remet en phase avec des petits... quels sont les véritables impératifs, en fait, d'une vie.
Ouais.
Se chauffer, se nourrir. C'est quand même assez fort d'expérimenter de cette façon-là. C'est cette simplicité, en fait, qui était assez... puissante.
Le monde entier était sur pause, quoi.
Donc c'était intéressant de l'expérimenter comme ça.
Et au niveau de ton boulot, t'as pu travailler pendant cette
période? C'était sur pause aussi. Hein.
Alors, tu l'as vécu comment, ça?
Je pense que je l'ai accepté assez facilement, d'autant plus que j'ai ce tempérament à quand même rester toujours sur mes gardes et ne pas brûler ce que j'ai. Donc, j'avais un peu d'argent de côté, ce qui m'a permis d'accepter que les mois comme ça se suivent sans aucun revenu, donc strictement aucun revenu, parce que la plupart des projets en cours étaient en lien direct ou indirect avec le domaine culturel.
Ouais.
Donc, en gros, j'ai un livre qui a, dont la sortie a été reportée, donc avec tout ce que ça engage de, d'investissement pour promouvoir cette sortie et permettre au livre de rencontrer son public. Donc ça, ça voilà, toute cette, toutes les initiatives qui étaient en train de se monter, elles ont été mis en pause. Il y a un projet aussi plus de com, mais qui est lié à l'événementiel directement. Donc les événements se sont ont été annulés, donc le projet a été annulé lui aussi. Donc c'est marrant parce que c'est une autre économie. Tu vois, autant le livre, c'est une toute petite économie. Bon, j'aurais pas gagné grand chose, même peut-être. Il y a beaucoup de travail qu'on fait sur un temps libre ou en tout cas sur un temps qu'on ne compte pas. Autant le projet d'événementiel avec une marque, une grosse marque, là, c'était vraiment... Il y avait un budget là-dedans. Et donc, que ce truc-là soit, qu'il soit annulé, ça a été clairement un trou. Là, ça, c'était un peu dommage. donc ça, et puis le festival. Ouais. Notre festival qui a été lui aussi, bien évidemment, comme tout...
Tous le festival Nîmes s'illustre.
Voilà, le festival Nîmes s'illustre qui a dû, comme tout le monde, accepter le deal de reporter ça à l'année prochaine. Voilà.
Donc, oui, au moment où cet épisode sortira,
oui.
On était censé se retrouver à Nîmes.
Oui, exactement.
Pour ce festival, justement, le festival Nîmes s'illustre. Et ça a été annulé. Mm. Et donc... on était censé fêter, célébrer l'illustration ensemble. Il y avait plein de choses de prévues. Et toi et d'autres personnes, vous avez investi énormément d'énergie et de travail là-dedans.
Mm-mm.
Du coup, Nîmes s'illustre n'aura pas lieu cette année.
Mm-mm.
Mais est-ce que tu pourrais me parler donc, de ce festival mm-hmm. qui était censé avoir lieu?
Alors, le festival Nîmes s'illustre donc, est un festival d'illustration qui se déroule, je vais parler au présent, hein, qui doit se dérouler et qui se déroule à Nîmes et qui a été monté par trois anciens Nîmois qui ont tous qui sont tous montés à Paris pour leur carrière et pour leur voilà pour leur métier. Voilà, c'est un peu pas un incontournable, mais en tout cas c'est un passage qui est souvent enfin, bon, voilà, c'est fréquent. Et on est tous à peu près de la même génération. On ne se connaissait pas. Alors, je précise quand même que moi, je suis arrivée un peu en décalé. Le projet existait déjà. Il y avait même une toute première, on va dire, une édition zéro qui avait eu lieu. Donc, c'était l'année dernière. Et lorsque j'ai entendu parler de ce projet-là, moi qui étais justement dans une dynamique d'un retour, comme je disais au tout départ, un besoin de retour aux origines, et donc une migration vers le sud, savoir qu'il y avait une initiative de ce type-là qui était en train de se monter à Nîmes, qui allait pouvoir à la fois promouvoir et voir peut-être fédérer en fait des personnalités de la région autour de l'illustration. Je me suis dit « Ouh là là, c'est parfait !» Il y a peut-être une dynamique qui va se monter et qui va être favorable pour, dans notre métier. Donc, j'ai contacté cette équipe-là et on s'est rencontrés et j'étais de suite englobée dans le projet. Et c'est assez... alors, c'est fou, hein, c'est une aventure assez incroyable de monter un festival. C'est une petite... C'est vraiment monté, ça a beau être un travail bénévole, encore une fois, de plus, où tu comptes pas ton temps et tu donnes généreusement. C'est quand même un projet de conviction où tu essayes de mettre en place. On est porté par des utopies quelque part quand on monte un festival. On essaye de. On a envie d'œuvrer, comme toi tu le dis très bien, pour la communauté en fait des illustrateurs. En tout cas, moi je sais que ça fait partie des moteurs, même si ça s'impose là comme ça. Et puis de parler, de reprendre un peu de distance en fait par rapport à ma pratique et de me recentrer un peu plus, ou en tout cas de m'ouvrir un peu plus aux autres, en collaborant, en allant à la rencontre des autres illustrateurs. Je trouvais ça, ça tombe bien. Je pense que j'avais besoin de ça maintenant. Après avoir travaillé, on va dire, au moins 6 ans, 6-10 ans à une carrière, personnelle à essayer de tirer mon épingle du jeu. Oui, je peux dire que c'était pas facile au début. J'ai réussi à avoir une reconnaissance sur mon travail, à vivre maintenant plus dignement, clairement, de mon métier, ce qui est quand même pas donné au démarrage. Je me suis rendu compte au bout de quelques années, évidemment, il y a des projets qui ont marqué les esprits et sur lesquels je suis encore très sollicitée, en fait, de reproduire et de créer en continu sur ce type d'univers. Donc, je pense à Cabins, voilà, qui a vraiment été un projet qui a fait popper vraiment ma carrière. Et je sais que j'ai rapidement été un peu oppressée, en fait, par l'idée de devoir focaliser, en fait, mes recherches et mon travail sur cet univers-là. Je me suis épanouie énormément à le faire. J'étais très heureuse qu'il rencontre à ce point un enthousiasme de la part du public et vraiment, voilà, que ça plaise à ce point. Simplement, je pense que je suis quand même à l'origine de nature à aimer l'expérimentation, l'exploration, la recherche, enfin aller sur plein de territoires. Et là, ça me cantonnait vraiment à ce territoire-là. Donc, j'ai eu beaucoup de propositions. Et j'ai encore beaucoup de propositions dans ce type-là. Et je sens que j'ai besoin de m'en détacher. Donc, en gros, je pense que j'ai eu dernièrement la sensation de devenir plus productrice d'images que créatrice.
Ok.
Donc, j'entends vraiment par là que j'étais tenue par des commandes qui me dirigeaient un peu trop sur des territoires qui, finalement, étaient moins ce à quoi je pouvais aspirer, ou en tout cas sur lesquels j'avais moins de liberté, en fait.
Ouais.
Ça, j'ai perdu un peu de ma liberté en étant plus productrice et en étant moins créatrice ou moins dans l'initiative de projet. Donc, j'ai eu besoin de reprendre la distance. Il y avait deux options qui se présentaient. Soit je me réouvrais aux arts appliqués au sens large, c'est-à-dire j'essayais de créer des passerelles entre l'illustration et d'autres champs, du design, de l'archi, de l'espace et même de l'artisanat, par exemple. Ce qui est toujours quelque chose qui me motive énormément, même si je l'ai pas concrétisé, ça. Je suis extrêmement admirative de toute cette vague d'illustrateurs qui font de la céramique, qui font du bois, qui ont cette liberté-là, en fait, d'être sur tous les supports et sans se poser de questions. Enfin, ça, je l'ai perdu, ça. Ça, je l'ai vraiment perdu. Je sais que c'est la contrepartie d'avoir fait vraiment carrière dans l'illustration. Ben, je suis cantonnée à ce domaine-là. Mmh. Et c'est difficile pour moi, mais peut-être c'est une difficulté qui m'est vraiment purement personnelle, hein, ça n'en tient qu'à moi, mais c'est difficile d'en sortir et de retrouver cette liberté sur les différents médiums. Donc j'avais soit cette possibilité-là, soit être plus dans quelque chose qui finalement avait déjà été un peu enclenché, être plus dans la transmission et dans le partage. Je pense qu'avec avec mes livres, et notamment donc Colorama qui a vraiment bien marché, j'ai découvert tout ce qui était de la réalité de vie d'un auteur, illustrateur, et de ce que ça engage en investissement pour pouvoir faire vivre le livre et lui permettre de rencontrer son public. Et ça, je ne l'avais pas du tout en tête. Pour moi, faire des livres, c'était vraiment le travail qu'on connaît très bien en tant qu'illustrateur, où on est focalisé sur notre recherche personnelle et voilà, sur les problématiques de création. Mais en réalité, il y a deux temps très forts, c'est la création et puis après la partie plus promotion.
Ouais.
Et cette partie promotion, ben, elle engage une rencontre avec le public, que ce soit sur des salons, on va dire, où on est en signature. Là, il faut se faire un peu violence parce qu'il faut jouer un jeu, hein, quelque part. Quand on est en signature, ben voilà, il faut accepter que notre petite bulle éclate et qu'on soit vraiment à la disposition des autres. Je sais que au début, c'était peut-être un petit peu une épreuve. Et puis, petit à petit, j'ai senti que c'était quand même extrêmement plaisant de rencontrer des gens enthousiastes par rapport au travail, d'avoir ce retour immédiat. Donc, soit sur des salons, de cette façon-là, soit sous la forme d'ateliers et de workshops, où vraiment là, une fois de plus, on est vraiment à la disposition des enfants, ou même parfois des adultes, mais on est vraiment dans le partage. Donc, on va transmettre le savoir, on va transmettre la pratique, on va transmettre une curiosité du monde, un éveil, en fait, on va solliciter un éveil. Et je pense que ça, quelque part, cette histoire de partage et de transmission, de manière assez inconsciente, c'est quelque chose que, avec lequel je suis assez volontaire. Je ne dirais pas que je suis à l'aise, parce que je ne m'estime pas... pas vraiment complètement dans mon élément quand je fais ça, mais j'y vais volontiers. Ouais. Voilà, je le fais parce que je trouve ça utile, précieux, important. Donc peut-être que cette histoire de transmission et de partage, je le retrouve aussi dans le festival, en recréant du lien, en m'ouvrant aux autres, aux autres illustrateurs, en essayant de mettre en place des collaborations pour monter un projet d'exposition, réfléchir ensemble à des thématiques, c'est en travailler ensemble. Ben on partage des convictions, on partage le métier, nos appréhensions. Ben ça me vraiment, moi dans ma place au sein du festival, je suis vraiment la caution artistique. J'ai pas précisé au début, mais du coup j'ai un lien. Je pense que j'ai un lien plus fort encore avec les artistes qu'on sollicite que les autres personnes. Mais je précise là puisque c'est quelque chose que j'ai oublié. Donc on est aujourd'hui quatre filles. Ça n'a pas été calculé, mais c'est un fait. Voilà, on est quatre nanas, toutes originaires de Nîmes. Donc Victoria Victoria Vendo qui a son agence agence d'illustrateur. Il y a Margot qui a une belle carrière dans l'institutionnel et l'événementiel. Il y a Sarah, dernièrement, qui est plus dans l'expérience vraiment de festival et dans la communication, je dirais. Je ne veux pas dire trop de bêtises, mais voilà, qui a vraiment plus une bonne sensibilité, une bonne connaissance de la manière dont on peut mettre en place vraiment la communication du festival. Et moi, qui est vraiment illustratrice et qui a le lien vraiment direct de métier, d'expérience avec les... Voilà, dans le domaine, quoi.
Ouais.
Donc, il peut faire la passerelle et le dialogue possible avec... Donc, je suis d'autant plus favorisée ou encouragée, en tout cas, à dialoguer et à créer du lien, vraiment, avec la communauté.
Bah, créer du lien, c'est notamment... Sens Créatif était censé faire un épisode live et en public. Et le but, c'était de fédérer... Enfin, le thème, c'était fédérer la communauté artistique.
Oui.
Et je vois là un fil d'Ariane dans cette discussion. Quand on s'est rencontrés, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, ça faisait 6-10 ans que tu avais construit ta carrière. Puis il y avait ce besoin de te reconnecter en quelque sorte, déjà aux sources. C'est-à-dire, par exemple, là, on l'a vu pour le confinement, tu es reparti dans le sud. Nîmes, Silus, c'est à Nîmes, c'est là d'où tu viens. Et aussi, quand on s'est rencontrés, c'était... chez Maison Tangible, il me semble, et puis après aussi, on s'est revus au laptop pour les soirées Mythes de Talent, etc. Et il y a ce retour vers le collectif, et Nîmes illustre bien ça, en l'occurrence.
Oui.
Et c'est un sujet qu'on a en commun, tous les deux, fédérer la communauté artistique, se connecter à elle, partager, etc. Ouais, je me demandais si tu pouvais aussi un petit peu parler justement de ce besoin, ce désir de fédérer, en fait. Personnellement et avec le festival, bien évidemment.
Alors, je ne sais pas vraiment expliquer le fond de tout ça. Pourquoi j'ai besoin de sentir... Je pense que toi, tu en parles très, très bien. Sur la... Vraiment, rien que de mettre le mot sur question de communauté, je pense que c'est finalement assez récent. En tout cas, pour ma part, je ne veux peut-être pas parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression que longtemps, on a considéré la pratique et le métier d'illustrateur comme un travail très solitaire, très individuel. Voilà, des électrons
Des ours au fin fond de leur caverne.
Ouais, c'est ça. Alors déjà, oui, il y a le fait qu'on travaille beaucoup chez nous, le fait qu'on travaille des univers, qu'on est encouragé vraiment à développer des univers personnels. Donc, on a vraiment un repli sur soi. Enfin, en tout cas, un travail d'introspection, ouais, ouais. Un travail vraiment où on crée une bulle, vraiment personnelle. Donc, ça caractérise quand même beaucoup le métier, cette question de recherche individuelle, sans que ce soit pour autant un métier compétitif. On n'est pas dans l'adversité et dans la compétition. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'on est... on peut avoir une énergie commune, mutualiser nos énergies et devenir plus fort de fait. Donc, cette histoire de communauté, toi, tu fais vraiment partie, je pense, avec ton podcast, d'une génération, ou en tout cas d'une... Comment dire une série de figures, en fait, qui ont cette bienveillance-là et qui encouragent vraiment cette prise de conscience et cette mise en pratique, en fait, d'énergie collective. Mmh. Donc, voilà, je suis assez admirative et ravie et heureuse de me dire, bah, tiens, ça a peut-être pris du temps, mais aujourd'hui, ça c'est une réalité qui est en train de peut-être de prendre vraiment corps et on va pouvoir être plus dans le partage et dans le dialogue illustrateur entre les illustrateurs. Ouais. Donc ouais, fédérer la communauté, je pense qu'on en a besoin. On a des métiers, on manque un peu de syndicats qui nous représentent vraiment. Dans la pluralité en fait, ouais. De nos métiers. Mmh. C'est souvent très ciblé, édition jeunesse ou bande dessinée. Mais voilà, on partage beaucoup d'enjeux communs, malgré nos spécificités à chacun, à nos corps de métier, à nos spécialisations. On a beaucoup de problématiques. Moi, ce que j'aime, par exemple, au laptop, c'est quand il y a les Meet the Talent, c'est justement... Après la présentation des trois artistes, on se rencontre non seulement avec ces artistes-là, mais aussi avec ceux qui ont été dans le public.
Ouais, ouais, ouais.
Et on partage librement nos problématiques de travail. Et ça fait du bien, en fait, de sentir qu'on n'est pas si seul. Ouais. Moi, j'ai toujours le sentiment que... Lorsque je vis une épreuve, il n'y a que moi qui la vis, cette épreuve-là.
C'est commun à tout le monde, ce sentiment, je crois.
Ouais, et pourtant, voilà. Donc, ouais. C'est commun à tout le monde. Et c'est lorsqu'on le partage, lorsqu'on est justement, qu'on a des opportunités de rentrer en contact les uns les autres dans des événements qui sont aussi simples qu'un festival, il n'y a pas d'enjeu. Au contraire, c'est convivial.
C'est vrai. Ouais, ouais.
Qu'on se rend compte que au fond, les épreuves sont pas si grandes, elles sont partagées, on s'en remet. Chacun a peut-être des conseils ou des petits mots qui vont peut-être faire germer des idées. Et c'est comme ça qu'on finalement on avance mieux ensemble lorsqu'on peut justement dialoguer.
Un grand puzzle où chacun apporte sa petite partie pour qu'on voit la grande image au final.
Oui, ouais, ouais.
Et puis je pense que c'est aussi un peu le but du festival.
Oui.
De mettre la lumière justement sur cette pratique qui a longtemps été vécue ou vue comme solitaire et même ignorée par beaucoup de gens. On connaît tous un peu cette fameuse histoire où tu te présentes, on te demande ce que tu fais, tu dis que tu es illustrateur ou illustratrice.
Oui.
Et illustre à quoi ? Ah, t'es graphiste ? Non, je suis illustrateur. Ah, les gens ont du mal à te situer.
T'as quoi comme métier ?
Ouais, ouais. Ouais, c'est pas un vrai métier aussi.
Ouais.
Et donc, du coup, j'imagine que ça fait partie un peu de l'ADN du festival, quoi.
Oui, oui, complètement. L'idée, c'est de mettre la lumière sur cette pratique et lui redonner ses lettres de noblesse. Je pense qu'il y a, tu le dis très bien, il y a cette problématique liée à l'illustration pendant des années qui a été le parent pauvre des métiers de l'image, quoi. Moi, je sais, je le dis. Quand j'étais étudiante, c'était pas, c'était pas la section la plus noble.
C'est vrai.
Ah non, mais vraiment pas. Par contre, alors, c'était une époque où illustration et graphisme étaient vraiment scindés et il n'y avait pas justement d'échange possible parce que le graphisme avait des prétentions, des ambitions et des enjeux qui étaient donc tout à fait louables et nobles pour la société. Et l'illustration, ben, ça avait comme simple destination souvent les gamins, dont on se... Bon, dans le fond, ça n'a pas de grand enjeu. Donc, bon, ça, on fait des mickeys, quoi.
Vous devriez avoir sa tête, là.
Ouais. Voilà, c'était un peu terrible, cette réalité-là. Mais voilà, quand t'es dedans, bon, ben, tu composes,
oui,
avec ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis, tout ça a bien évolué en plus de 10 ans. Là, en 15 ans, on va dire que ça a vraiment... Il y a eu vraiment un virage. L'illustration a commencé à remplacer la photographie dans la presse. Vraiment, a recommencé à remplacer. Et moi, j'étais dans cette vague-là. J'étais au bon endroit au bon moment. J'ai commencé par un magazine et puis après tout a glissé, quoi, ouais, très, ouais, naturellement. Et donc on se rend compte que finalement c'est un très bon outil de communication. Ça va parfois même plus loin que la photographie. Qu'il y a multitude d'écritures possibles et que c'est un métier, voilà, que c'est un métier à part entière, quoi, vraiment.
Ouais.
Et qui est noble, digne, c'est vraiment un métier véritablement artistique, même si ça relève du champ des arts appliqués,
ouais,
et que surtout les frontières sont poreuses, en fait.
Très poreuses.
Et ça, c'est ce qui me plaît, en fait, dans cette pratique-là, c'est qu'on peut glisser de plus en plus et c'est accepté, alors qu'avant, si les frontières étaient quand même marquées, on peut glisser de l'illustration au graphisme, à l'art contemporain et à l'artisanat. Et au final, l'illustration, il est à mi-chemin entre tout ça. Et enfin, moi, je le vois comme ça. Et on peut théoriquement vraiment explorer, en fait, et faire vivre cette pratique sur tous ces champs-là. Donc, c'est hyper intéressant, quoi, vraiment.
Ouais. Et puis, tu t'es dit, il faut que ça sorte de l'ombre. Il faut qu'on en entende parler, quoi.
Ouais, ben, c'est tout simplement... C'est pas crier haut et fort, regardez, l'illustration, c'est formidable, mais... mais
un peu quand même.
Mais c'est... Ouais, un peu quand même, c'est vrai.
C'est formidable, vraiment... l'illustration.
Oui, oui, oui. Non, mais... non, on va pas dire le contraire, c'est certain. Mais je sais pas si... En tout cas, je me sens pas chargée d'une mission de ce type-là, mais malgré tout, je pense que c'est assez normal qu'au bout d'un certain nombre d'années de métier, j'ai pas rencontré beaucoup d'adversité, hein, ou d'animosité envers ma pratique. J'ai rarement finalement entendu qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que c'est l'illustration. Mais je trouve ça quand même important de savoir valoriser son métier, en fait, de montrer à quel point il y a un ancrage historique qui n'est pas des moindres. Il est beau, quoi, vraiment. On a vraiment un superbe patrimoine dans le domaine. Et c'est riche. Et surtout, ben, c'est aussi un très beau vecteur de communication et transmission de... Moi, j'aime beaucoup ce mot, d'émerveillement, en fait. Il y a un pouvoir dans l'illustration qui peut nous transporter, qui est peut-être aussi le cas aussi dans la photographie ou dans d'autres domaines, certainement. Moi, c'est ma pratique, c'est celui que je connais et que... Donc, forcément, c'est quelque chose que je repère et que j'apprécie. Et c'est quelque chose que j'ai envie que, dans ce domaine-là, qu'il soit perceptible. Donc, j'encourage, oui, par le festival, on a envie d'apporter aussi de la curiosité, de l'éveil et de l'émerveillement, oui, c'est ça, à la destination, vraiment, pour le coup, de tous les publics. En ça, ça rejoint vraiment le chemin que je fais avec les livres,
oui,
alors que le festival, il est pas...
Un retour aux gens.
Oui, c'est ça, c'est vraiment aller à la rencontre des gens et de leur montrer et de partager avec eux... Là, c'est vraiment à destination du grand public, partager avec eux les magies, en fait, qui opèrent au contact de l'image illustrée.
Ouais.
Il y a tellement d'écritures différentes et tellement d'aspirations différentes dans le domaine de l'illustration qu'on a un champ, on a plein de champs possibles pour créer des connexions avec les gens, en fait. Moi, je sais que j'aime aujourd'hui, c'était pas le cas avant, je suis plus sensible à l'image qui véhicule une émotion, une atmosphère, par le biais de l'atmosphère. Avant, j'étais beaucoup plus cérébrale, voilà, sur des logiques à la frontière du graphisme. Et je recherchais vraiment des mécaniques de pensée. Voilà, je trouve que déjà qu'on sache que l'illustration balaye ces différents spectres, tout le monde peut s'y retrouver en fait, en tant que spectateur. On peut trouver un territoire, un illustrateur, un style, un univers, un sujet qui va vraiment lui parler. Je crois vraiment qu'il y a un énorme potentiel pour pouvoir éveiller la curiosité du grand public. Ouais.
Et tu pourrais me parler de cet éveil du cérébral vers le plus émotionnel ?
Oui.
Moi, ça me parle, donc j'ai envie d'en savoir plus.
Alors, je n'ai pas fait de psychanalyse à ce niveau-là, mais je dirais que la quête très cérébrale, au départ, est liée vraiment au fait que j'étais encore... j'ai fondé ce socle-là lorsque j'étais étudiante. Donc, on avait vraiment des problématiques artistiques. On nous encourageait vraiment à avoir une réflexion... on nous encourageait sur un travail de réflexion, vraiment. Et un peu moins sur la pratique, comment dire, quoique ce n'est pas incompatible. Mais bref, j'ai développé un travail très cérébral. C'est lié à un âge aussi, à 25 ans. J'arrivais à me différencier en mettant en place des mécaniques de pensée, en mettant en place des dispositifs qui sont plus de l'ordre de l'exercice de style, en jouant à des jeux comme ça, de modulation. Mais voilà, je pense que c'est ce qui faisait que j'avais une singularité. Et puis, j'aimais beaucoup être là-dedans, quoi. Vraiment, je continue à aimer beaucoup ces choses-là chez d'autres illustrateurs. Et puis j'ai rencontré certaines difficultés à vivre avec ces pratiques-là, parce qu'on s'était taxé vraiment de... Quand il s'agissait de livres, c'était des livres d'artistes, et finalement, j'ai eu beaucoup de mal à les éditer.
Ouais.
C'est beaucoup de travail qui ne rémunère pas. Et donc, ça m'a mené vraiment à me questionner sur pourquoi je crée et avec qui je partage ce travail-là. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que ça parlait vraiment à une frange très petite de la population, c'est-à-dire des gens qui partageaient les mêmes recherches que moi et qui avaient une certaine « élite », entre guillemets. Hein, voilà. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que peut-être ce n'était pas ce à quoi j'aspirais, en tout cas, de parler à peu, mais au contraire, et c'est là que j'ai commencé à faire, à repenser la manière dont je faisais mes livres. J'avais envie, j'ai pris conscience, et c'est simultané à la naissance de mon fils.
Ah ok, intéressant.
C'est pas pour rien. Bah, mais oui, oui, la question de la transmission, elle est liée à la maternité ou à la paternité, c'est certain. J'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y avait une question de regarder le monde et de voir quelle curiosité je pouvais partager, je pouvais transmettre. Ouais. Et là, à partir de là, je commençais à faire des ouvrages un peu plus dans la pédagogie, on va dire, moins dans l'expérimentation graphique, mais un peu plus tournée vers le sens et la connaissance. Et de fil en aiguille, c'est allé graphiquement vers quelque chose de plus ambiant, plus sensible, plus atmosphérique. Donc vraiment des images qui, au final, questionnent le plaisir de l'œil plus que le plaisir cérébral de réflexion. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'à l'époque... Donc, à la sortie de l'école, j'avais même un dégoût très fort pour... enfin, en tout cas, ça ne m'intéressait absolument pas et je me moquais, je dirais plutôt. C'est pas un dégoût, c'est plutôt je me moquais des illustrations qui étaient que j'appelais sensuelles, en fait. Des illustrations qui étaient là pour vraiment flatter l'œil et séduire, en fait, quelque part, le lecteur, le public. Enfin, voilà. Et curieusement, même si c'est pas du... Enfin, j'estime que c'est pas vraiment dans ma quête, aujourd'hui, j'ai glissé vers ça, vers quelque chose, en tout cas, qui est dans le plaisir
c'est incarné
de ressentir.
Aussi.
Ouais. Ouais. C'est ressentir quelque chose, en fait, ressentir une émotion plus que penser, penser ou réfléchir. Ou... Ouais, j'ai une quête d'émotion, je pense. Ouais. Et ça a un lien direct et indirect avec, évidemment, la maternité. On a envie de partager à la fois des connaissances et à la fois du sensible.
Bien sûr.
Vraiment, avec nos enfants. Donc, ça m'a menée là. Peut-être c'est lié aussi vraiment...
Ça t'a ancré aussi, j'imagine, dans le concret. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est très cérébral. Et puis, je pense qu'on est aussi pas mal dans une culture où on loue la pirouette graphique ou intellectuelle.
Oui.
Et je pense que quand t'as des enfants...
Oui.
Enfin, moi, ça a été mon expérience. Tous les deux, on a un enfant. Le tien, bon, il est plus vieux que le mien, largement. Mais moi, je sais que... Moi, je suis quelqu'un de très cérébral aussi, de nature. Et je pense que je suis descendu du cerveau au cœur.
Mm-hmm.
Alors, ça paraît bateau et cucu, tout ce que tu
veux. Non, mais c'est très juste.
Mais ça m'a ramené à l'essentiel. Déjà, tu as moins de temps.
Mm-hmm.
Et donc, du coup, tu vas plus, voilà, je viens de le dire, à l'essentiel. C'est plus vécu, c'est plus brut, c'est plus émotionnel. Et moi, je trouve ça super intéressant. En fait, t'es pas la première personne qui me dit ça. Je l'ai vécu moi, d'autres personnes aussi. Il y a une sorte de recentrage sur ce qui est le plus important et quelque chose de plus décomplexé, de plus vécu et de plus vivant, de plus incarné, quoi, au final. Et c'est drôle parce que, au final, j'ai l'impression, hein, je parle juste pour moi, mais que ce qu'on loue souvent, c'est ces trucs prestigieux, la pirouette, regardez comme il ou elle, elle est balèze, ou cette idée, ou etc. Et comme tu as dit, ça touche un petit public, mais si on veut vivre de ce métier-là, on se rend compte qu'au final, on doit aller dans ce qu'on a de commun avec tellement plus de gens. Ça ne veut pas dire tout le monde, évidemment, mais... Et il y a quelque chose de plus universel, en fait,
et
de plus vécu.
Et c'est pas moins noble que de faire des livres grand public. Moi, je sais que c'était même une question que j'avais déjà amorcée lorsque j'étais étudiante, c'est cette question d'universalité.
Ah, oui.
C'est vraiment comment parler de manière universelle. Bon, le pictogramme en fait bien le travail dans un ouvrage pour pouvoir à la fois embrasser... plusieurs cultures, ce qui est vraiment parfois totalement voué à l'échec, hein, puisqu'on a vraiment de grandes différences culturelles, mais aussi et surtout, ce que je trouve vraiment intéressant dans le livre, c'est d'embrasser plusieurs générations. Et je sais que moi, j'ai eu très peu de livres quand j'étais enfant, mais par contre, il y en a un qui m'a accompagnée de toute petite à très grande au final. Et j'aime ces livres-là qui ont cette capacité d'offrir au lecteur à différents âges, des entrées possibles, parce qu'ils ont plusieurs niveaux de lecture ou parce qu'on y trouve quelque chose qui va nous faire sens différemment selon l'âge qu'on a. Donc moi, je sais que c'est une des problématiques centrales maintenant, je l'ai bien identifiée, dans ma création de livres illustrés et qui sont à la fois à la frontière de la jeunesse et de l'adulte. Donc cette alors si c'est pas universel, en tout cas c'est transversal, quoi. Voilà, c'est vraiment cette transversalité. Et quand je disais il y a pas de mal à faire du grand public, au contraire, il y a une certaine noblesse du coup d'avoir cette capacité d'embrasser tout le monde avec une forme simple en apparence, en tout cas le contenu. Je pense que le Colorama on est un bon exemple, c'est qu'on a un livre dont le dispositif est très simple, hein, une énumération de couleurs, de nuances, certes très généreux, hein, puisqu'il est quand même assez exhaustif, mais voilà, une illustration associée, un petit nom, une petite histoire. C'est très facile, il suffit de voir une double page et on a compris le dispositif. C'est très simple en apparence. Par contre, On s'imagine peut-être pas, mais c'est assez colossal comme travail pour vraiment être passer l'aspect purement esthétique et séduisant et vraiment être porteur de sens et vraiment être offrir des clés de connaissances et d'éveil vraiment. Et donc là, voilà, c'est un livre qui, pour le coup, je crois vraiment a réussi. À embrasser un public très large.
Ouais.
Autant les graphistes, alors peut-être pas tous, je sais pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a autant des cabinets d'architectes et des graphistes qui ont un travail très pointu, qui peuvent s'y retrouver voilà, par la mécanique ou la poésie qui s'en dégage. Du grand public qui n'a pas forcément un lien, mais qui a une petite sensibilité à la couleur. Et puis, bien évidemment, les enfants, parce que finalement, cette notion de couleur, c'est central, en fait, dans l'apprentissage de l'enfant. Des livres sur la couleur, il y en a des milliers pour les enfants. Des imagés de la couleur, encore... je ne sais pas combien il y en a. C'est monumental. Mais, parce que c'est essentiel dans l'apprentissage. Mais dans la manière dont je le fais, peut-être, moi, j'apporte... peut-être une pierre supplémentaire à l'édifice qui va vraiment être dans une éducation et je me répète, hein, une curiosité quoi, qui va s'éveiller, en tout cas un désir de comprendre le monde. Quoi. Voilà.
Ouais.
Je pense qu'il y a ça. Je ne sais pas si je réponds.
Si, si. Donc, ouais, on sent que quelque part, tu as enclenché déjà une transition depuis quelques années. Là.
Mm-mm.
Et donc, tu es en cours vers ce...
Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a tous cette phase. Je peux me tromper, hein. Mais j'ai l'impression qu'on a tous cette phase assez finalement identifiable de la carrière, donc de la recherche personnelle, très individuelle, de faire carrière ou en tout cas d'avoir la reconnaissance sur notre travail. Donc il y a une question finalement de performance quand même, arriver à un but individuel de réussite entre guillemets. Et puis, si on y arrive, lorsqu'on y arrive, on a un retour un peu plus à... maintenant qu'on y arrive, on peut partager,
ouais.
On peut partager, on peut transmettre, on peut faire part de son savoir.
Ouais.
J'ai un peu l'impression que c'est un schéma très classique. Très simple, très naturel.
Oui, mais c'est beau aussi. Enfin, je veux dire, ça me paraît... Une fois qu'on atteint un certain niveau, il ne faut pas le garder pour soi, quoi.
Ouais, après, je comprends les artistes qui ont le sentiment d'avoir jamais... Enfin, tu vois, il y a une certaine insatisfaction qui peut perdurer malgré tout et un besoin toujours, inlassablement, de creuser, en fait, le territoire qu'ils ont réussi à identifier, leur territoire. Et de ne pas déroger de ça, que ce soit leur moteur premier. Hein. Je conçois tout à fait qu'on ne soit pas porté par l'envie de transmettre quoi que ce soit. Parfois, c'est pas moins noble.
On peut faire les deux. Les deux. Parce que j'ai l'impression que c'est une quête infinie.
On peut faire les deux.
Je veux dire.
Je pense que c'est difficile aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est toujours le même problème, c'est que je manque de temps. J'ai du mal à tout faire, en fait. J'ai du mal à être à la fois sur des commandes, donc celles qui rémunèrent, d'être sur des projets personnels comme le livre, qui sont essentiels pour moi, parce que je suis maître d'orchestre, vraiment là-dessus, pour le coup, tout m'appartient dans cette initiative, mais qui ne rémunère pas et qui est extrêmement chronophage. Et d'autres projets qui sont de l'ordre de l'exploration, en fait. Parce que même si les livres sont un territoire personnel, j'explore malgré tout un peu moins que ce qu'on peut croire. En tout cas, moi, je suis dans une mécanique qui ne me permet pas d'explorer autant que je le voudrais graphiquement. Donc,
Tu aimerais.
J'aimerais, mais je pense que ce n'est pas forcément par le livre, en fait.
Ah, okay.
Ça ne doit pas passer par là. Je pense que quand j'ai envie de revenir à de la... Enfin, revenir. Quand j'ai envie d'aller vers l'artisanat ou en faire le lien entre l'illustration, le textile, la céramique, le bois, tous ces médiums-là.
Du concret,
cette envie,
quoi.
Ouais, il y a quelque chose. Bah oui, c'est un peu dans l'air du temps aussi. Hein, j'ai l'impression qu'on a besoin de
retour aux sources. On revient tout le temps, même.
Ouais. Il y a un besoin, ouais, qui est partagé. Je pense à ce niveau-là, qui est très clair, qui est vraiment émergent. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer, mais en tout cas, voilà, ces besoins-là, ils n'ont pas besoin de s'inscrire dans un projet. Qui doit voir le jour, qui doit être inscrit dans un marché. Le problème du livre, malgré tout, même si je le fais avec quand même beaucoup de liberté chez Gallimard, parce qu'il me laisse de l'autonomie, c'est inscrit dans un marché. C'est clairement la problématique, je l'ai citée, c'est comment toucher le plus de monde possible, en fait. Comment faire en sorte que... Alors, voilà, c'est une problématique que je partage volontiers avec l'éditeur grand public qu'est Gallimard, parce que moi, je vois la part noble de cette problématique. Pour lui, elle est purement, évidemment, beaucoup plus marchande. C'est clairement une question de bénéfice.
Ouais.
Pourquoi je dis ça, je ne sais plus.
Non, parce que le bois ou les choses plus concrètes...
Voilà, c'est... ça n'a pas besoin d'être inscrit dans une question de marque.
Il y a moins un enjeu économique.
Voilà, et ce besoin-là, il est précieux. Ouais. On en a besoin, je crois, un peu tous à un moment donné. Ouais.
Je pense que c'est aussi ce qu'on a tous vécu avec le confinement. Au final, c'est une sorte de retour à l'essentiel, à une simplicité.
Alors oui, alors du coup, à côté de ça, l'expérience du confinement, pour le coup, la simplicité, le jardin, la vie avec la nature, finalement, ça prend beaucoup de temps, tout ça. De méditer, l'air de rien, en l'occurrence... j'avais très, très peu de temps pour le travail, parce que entre la vie pour le petit, donc pour l'éducation scolaire, puisqu'il faut prendre il fallait prendre le relais, ce qui était vraiment, ça prenait déjà un bon tiers du temps. Puis le jardin, finalement, un bon tiers lui aussi. Et puis rester un tiers aussi partagé entre, je ne veux pas me plaindre, entre la cuisine et d'autres activités, un petit peu de partage. Donc au final, j'ai quasiment pas du tout créé, mais c'était... C'était essentiel, en fait, d'arrêter de créer à ce moment-là, je crois. Je ne sais pas, j'ai l'impression que la chose la plus importante, c'était de s'ancrer, en fait. Je crois qu'on en avait parlé un moment ensemble. J'arrivais pas à m'enraciner, en fait, dans cette terre qui, habituellement, il faut vraiment se rendre compte, vu que j'y retourne tous les étés, c'est vraiment le temps... essentiel et assez exceptionnel qui me permet vraiment de prendre de la distance par rapport à la vie trépidante qu'on a à Paris et de faire le vide et de sentir naturellement faire la part des choses, de sentir naturellement les bonnes et les mauvaises idées. Et systématiquement, c'est quand je suis là-bas que les projets, en tout cas les idées de projets se déclenchent vraiment.
Ben oui.
Donc, et pourtant, voilà, durant ce confinement, dans cette maison et ce terrain que je connais vraiment par cœur, j'arrivais pas à m'enraciner parce que j'étais l'esprit encore dans les problématiques plus de travail et de trouver, d'essayer d'anticiper ce qui va arriver ou de se préparer
à
tout ça.
Et à la fin, t'as réussi à t'ancrer ou...
Oui, bien sûr. Mais j'ai réussi à m'ancrer parce que j'ai lâché prise, parce que j'ai accepté de vivre au rythme du soleil, de la lumière, du vent, de la pluie, au rythme du jardin. Et finalement, c'est lui qui a pris la place vraiment prédominante. J'ai pas créé, mais j'ai... c'est une autre forme de création que de faire le jardin. C'est donner naissance à des petits légumes.
C'est vivant, quoi.
Et c'est extrêmement gratifiant, en fait, quand il arrive. Moi, j'ai la sensation, ou en tout cas, j'ai eu la sensation sur ce temps-là, que si je ne peux pas m'en contenter sur un long terme, ça me contentait largement sur un court terme.
Ouais, vraiment.
Donc, j'ai pas philosophie, j'ai pas réfléchi véritablement là-dessus, mais je sens que en tout cas le jardin me permettait un épanouissement, ou en tout cas combler le manque d'épanouissement.
C'est un projet de livre là.
J'en ai un, mais alors par contre oui, il est en relation. Direct, c'est j'ai un projet de livre sur les graines en fait, sur lequel voilà. Et je pense que ça fait ouais ben oui parce que il est déjà amorcé depuis longtemps, mais voilà toujours cette question de temps à mettre en place. Puis c'est pareil que Colorama, c'est un projet assez colossal pour ma petite personne, mais c'est vraiment travailler rendre hommage à la biodiversité et travailler sur l'art. Des modes de dispersion, de dissémination des graines. Donc, en gros, la nature a su doter les plantes et leurs petites descendances, que sont les graines, de différents dispositifs stratégiques qui vont leur permettre de se disperser soit par le vent, soit par l'eau, soit par les animaux. Donc, par le vent, on peut avoir le symbole le plus connu, c'est la graine de pissenlit avec son petit parachute. C'est pas pour rien qu'elle a son petit parachute, c'est que ça va lui permettre d'aller au gré du vent se disperser à travers les champs. Puis, on a aussi les graines d'érable où ça fait une petite hélice comme ça qui tourne. Moi, je sais que enfant, j'étais... Ça fait partie des grands émerveillements de mon enfance, les grands souvenirs, les grands jeux que j'aimais faire avec mes grands-parents. Quoi. C'est se poser sur un pont et regarder cette hélice et voir au plus loin elle peut aller. Donc voilà, et puis apparaît au travers des animaux, ça peut être par des systèmes de crochets ou en étant ingéré, en éveillant l'appétit, donc par les fruits, enfin, dont finalement on fait partie aussi de ces animaux qui sont capables de disperser les graines en les consommant, voilà, et en les rejetant à travers le monde finalement, parce qu'on peut leur faire voyager très loin, nous les hommes. Bref, donc j'ai ce projet là qui est en train de se construire, et c'est vrai que j'étais au meilleur endroit pour pouvoir créer du lien entre mon quotidien et ce projet artistique, ce projet de livre. Donc, super, je suis très heureuse de pouvoir le monter. C'est complexe parce qu'il faut raconter une petite histoire à chaque fois pour chaque graine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me permet aussi de faire quelque part un lien avec les arts appliqués, c'est-à-dire que j'aborde chaque graine. Je ne sais pas si toi, tu as fait Non, tu n'as pas eu un bac art appliqué, toi.
Non, non, non.
Moi, le bac art appliqué a été extrêmement formateur. C'est vraiment, pendant 3 ans, tu étais formé aux arts appliqués, à embrasser les différents domaines. Et on a comme ça des exercices très, très structurés, dont l'étude de cas. Je ne sais pas du tout si c'est toujours des termes qui sont employés, mais en tout cas, l'étude de cas, c'est étudier vraiment un sujet et voir ou un objet et décrire s'il y a une bonne et en quoi il y a une bonne adéquation entre la forme et la fonction. Et là, en l'occurrence, je prends chaque graine comme un objet de design et je l'étudie. Et j'étudie sa forme et sa fonction et je montre à quel point la nature est extrêmement créatrice et elle rivalise d'ingéniosité pour pouvoir offrir l'opportunité de la dispersion à ces graines-là et à quel point elle est capable vraiment de perfectionner les dispositifs à la manière d'un designer.
Quoi. Ouais, c'est ouf.
Donc, c'est magique de voir, de balayer comme ça toute cette richesse de vocabulaire formel. Voilà, qui sont potentiellement de véritables sources d'inspiration pour un designer. Quoi, ouais, ouais.
Du coup, on parle de nature, de soleil,
ouais.
De retour aux sources, de remise en question.
Ouais, ouais.
Pour terminer ce petit moment ensemble, je me demandais si tu pouvais adresser ce sujet de la remise en question. Tu sais, genre si certains de mes auditeurs, je pense que beaucoup se retrouvent là-dedans aussi suite au confinement, etc. Ça n'a pas besoin d'être long, hein, juste, tu es passé par ce processus et puis tu l'as déjà vécu plusieurs fois.
Oui.
Qu'est-ce que tu aurais à dire, tu sais, sur...
Oh, c'est une grande banalité, c'est d'accepter, arriver à accepter. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'est accepter ça comme un incontournable, en fait. C'est vraiment des temps qui sont essentiels, qui sont récurrents, qui vont se représenter régulièrement et... C'est ouais. Ouais. Il faut juste le. Je sais. Je suis pas dans une logique de rentabilité. Je saurais pas dire. Tu verras. T'en tireras des bénéfices. Parce que je suis pas vraiment capable de d'avoir cette clairvoyance là. Mais je sais que qu'on vit mieux en acceptant que l'adversité se présente ou que la en acceptant de rencontrer des difficultés et en les affrontant avec avec plus de sérénité. Ouais, c'est une grande banalité que je suis en train de dire là.
Les banalités sont souvent pleines de bon sens, quoi.
Bon, voilà.
Ok. Non, mais super. Bon, bah, magnifique. Merci Marie-Laure pour ce temps, c'était top. Et puis à bientôt.
Cool, au plaisir. Salut.
C'était ma discussion avec Marie-Laure Cruchy. Merci à elle pour son temps, c'est toujours un plaisir de discuter ensemble. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à suivre Marie-Laure sur les réseaux sociaux et à vous procurer l'un de ses innombrables livres, avec une mention spéciale pour Colorama, vu qu'on en parle dans cet épisode. Et puis, si le festival Nîmes Illustre a piqué votre curiosité et que vous n'étiez pas au fait de cet événement, il est temps de vous rattraper en visitant le site internet nimesillustre.com et en vous abonnant au compte Instagram du festival. Cet événement n'aura pas lieu cette année, c'est vrai, mais il est reporté à l'année prochaine. Donc, si vous désirez être tenu au courant des actualités de ce festival, afin de faire la fête tous ensemble l'année prochaine, gardez bien ce nom en tête. Nîmes Illustre, le festival de l'illustration. Rendez-vous en 2021. Si vous voulez être sûr de ne plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas non plus à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait énormément plaisir de lire vos messages et ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Je vous invite aussi à partager le podcast autour de vous et à m'écrire afin de me faire part de vos questions et de vos réflexions. Et pour rappel, le prochain monologue du podcast sera sous forme de foire aux questions. Donc si vous avez une question qui vous brûle les lèvres en rapport avec le métier de créatif, si vous faites face à un challenge et que vous vous dites « c'est pas possible, je ne dois pas être le ou la seule à vivre cela », ou simplement si vous aimeriez en savoir plus sur les coulisses du podcast, envoyez-moi vos questions. Je me ferai un plaisir de choisir celles qui reviennent le plus souvent et je tenterai très simplement d'y répondre lors de mon prochain épisode solo. Donc, comme je le disais avant, pour me contacter, le plus simple, c'est de le faire par email ou via les réseaux sociaux. Les liens sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Je termine. Si d'épisode en épisode ce podcast vous encourage et vous inspire, je vous invite à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2 euros par épisode. Me soutenir sur Patreon, en plus de soutenir un projet qui vous tient à cœur, c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast, des infos en avant-première, l'occasion de poser des questions pour des invités à venir, ainsi qu'un accès au groupe de discussion privé sur Instagram. Pour en savoir plus, visitez patreon.com/senscreatifpodcast. Je termine pour de vrai cette fois-ci en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @adrienguymusique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Merci également à Adrien Grenier pour le montage. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bel été à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.
Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SUMMER.